la première chanson, Rasputin de ABBA.
Ouais.
Alors c'est, je sais pas quel âge j'avais, mais je devais être petit, je devais avoir 4-5 ans. Et en fait, c'est simplement, si je devais dire une chanson, une toute, c'est comme un espèce d'éveil d'une première chanson où t'es même pas assez grand pour choisir le truc. Mais cette chanson, tout d'un coup, elle m'évoque l'enfance. Et le premier souvenir d'une chanson, je crois que mes parents adoraient ABBA et qui, voilà, celle-là. Et d'ailleurs, des années après, j'ai mis du temps à retrouver cette chanson, savoir que c'était ABBA. Et voilà, c'est l'enfance, c'est cette chanson. Deuxième chanson, comme ça, là, un truc, forcément, Billie Jean. Okay. Billie Jean de Michael Jackson. Où là, pour moi, c'est un peu première chanson où mon grand frère adorait l'album Thriller. Il était un petit peu plus grand que moi, donc c'est lui qui m'a fait découvrir Michael. Et les cousins, enfin, je crois que tout le monde, Michael Jackson, tout le monde adorait Jackson. Donc c'était difficile de passer à côté. Et je crois que Billie Jean, c'est la chanson qui m'a fait devenir fan un peu de lui. Et c'est une chanson ultra élégante, classe au possible. Tout le monde la connaît, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette chanson. Parce qu'après, il y avait des trucs aussi qui m'avaient marqué. Gabi de Bachung. Pareil, ça c'est encore l'enfance, mes parents aimaient beaucoup. Et puis, je sais pas, elle a dû tourner en boucle à la maison, donc c'est pareil, souvenir d'enfance. Et puis en même temps, le premier contact avec c'était pas rock, mais enfin quand même, elle était assez rock'n'roll et tout, voilà. Donc c'était un peu la première approche du rock français avec l'ami Bachung. Après, si, il y a aussi on va dire que les quatre premières chansons, ça reste beaucoup de trucs. Là, on remonte un peu plus loin. Alors, je pourrais pas te dire qui c'est, mais c'était un les voitures fait des lettres dansant, un les bruits pas fait que la les dansant, un tu allez un des voitures dansant, que allez un tu vas des dansant.
Ça va être dur à trouver ça.
Ça va être dur à trouver. Et ça, c'est un peu pareil, l'époque du Smurf.
Ouais.
Avec l'émission H.I.P. H.O.P., Sidney Lumet, le premier Smurf, les débuts du rap, et ça englobe ce truc-là. Et pareil, c'est une chanson, elle m'a vachement marqué parce que c'était genre la première paire de baskets que j'avais dû avoir, et t'es en jogging et tu fais ça et tu commences à faire ça, à smurfer donc. Donc ça, c'était aussi important. Voilà, ça je dirais, voilà, autour de l'enfant, c'est un peu ça. Je parlais quand même de ce qui était mon groupe préféré, tu vois, les Cure à cette époque, quand même. J'ai eu des clics sur quoi ? J'ai eu des clics, donc ça c'était 86, Cure in Orange, In Between Days. In Between Days, de l'album The Head on the Door. In Between Days, c'est pour moi la pop song ultime, quoi. C'est-à-dire les Cure qui débarquent avec Close to Me, qui est une espèce d'ovni pour l'époque, où ils sont dans le placard avec leur peigne et à faire donc déjà tu fais ah, donc là on quitte un peu l'enfance, c'est plutôt le début de l'adolescence, etc. Et j'adhère moyennement en fait à Close to Me parce qu'ils me font un peu peur, les mecs. Et tout d'un coup, des boules In Between Days avec Go On, Go On, cette espèce d'élan de jeunesse, d'adolescence, de trucs. Donc là, j'arrête un peu Michael Jackson et je passe à Cure, In Between Days.
D'accord.
Et c'est difficile d'en mettre une des Cure parce qu'il y a aussi après 89, Pictures of You, qui est aussi un espèce de déclic. Donc si je peux me permettre, j'en mets deux un peu dans le truc.
Ouais.
Voilà, puis après, j'ai tout redécouvert, les albums pornographie, Face, enfin le côté un peu sombre du truc. Voilà, ça fait combien ça ? Ça fait 5. Après, tu vois, je peux en prendre une des Stones, je peux en prendre une des Beatles. Il y a après des groupes complètement inconnus, mais ça me ferait plaisir. C'est un groupe qui n'est pas tellement connu, mais qui a été quand même... Ils se sont séparés il y a 10 ans, mais il s'appelle Soul Coughing, ouais. L'éternuement de l'âme. C'est un groupe américain. Le chanteur s'appelle Mac Douty, et c'était un ancien journaliste urbain de rue. Il a monté ce groupe Soul Coughing, où lui parle de la rue. Il rappe, il chante. C'était dans les années 90, un peu après Nirvana. Il a monté un groupe avec un contrebassiste excellent, mon batteur préféré, je ne sais plus son nom d'ailleurs, et les premiers sampleurs. Le mec avait un clavier, ouais, qui balançait des samples de mouettes, de trucs, et donc c'était une musique un peu surréaliste. Et je crois que donc ils ont fait 3 albums, j'ai les 3, et ils se sont séparés après machin. Lui, il a pris une carrière solo. Et l'année dernière, il y a eu quel a été le groupe un peu de la décennie des 90, le meilleur truc, et ils ont été le meilleur groupe. Donc inconnu du grand public, ouais, mais ils ont influencé des tonnes de groupes, les Pearl Jam, les machins, machins. Et d'accord, c'était pas du grunge. Donc Soul Coughing et la chanson Sugar Free Jazz. Si tu peux passer cette chanson, alors là, moi je suis besoin. Sugar Free Jazz. Sugar Free Jazz. J'adore. Et alors cette chanson. Et ce groupe-là, vraiment, on peut dire que j'ai été vachement influencé, surtout de par la voix grave, parce que le chanteur a la voix grave. Moi je suis peut-être plus mélodique. Eux, ils cassent un peu tous les modèles, tous les trucs. Ils rappent, ils chantent, mais il y a des trucs. Ce groupe-là, c'est sûr qu'il a été super influent sur moi. Après, je dirais Céline Dion,
ah oui,
le Titanic. Non, non, non. Mais ça a marqué tout le monde, mais involontairement. Tu vois,
ça a traumatisé des gens aussi.
Ouais, 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 ça a fait beaucoup de dégâts cette chanson. Gros succès égale gros dégâts aussi. Ouais. Mais après, bon, ben bah, ouais, je vais pas redire Bachou, mais bon, j'avais adoré ça, mais non, mais j'en ai déjà parlé. Il y a des tonnes de choses. J'irai taper dans quoi ? Oh ! Évidemment, je ne pouvais pas passer sans Jimi Hendrix. Ouais. Alors moi, Jimi Hendrix, je raconte un petit peu le truc. Jimi Hendrix, c'est un ami de mon père, espagnol, qui l'a vu en vrai, en concert, quand il était plus jeune, connaissait pas du tout. Et un pote lui a donné un ticket pour aller voir Jimi Hendrix, qu'il ne connaissait pas, et il s'est pris la claque de sa vie. Et d'ailleurs, paix à son âme, parce que cet ami de mon père est plus là. Et donc c'est lui, quand j'ai eu 14 ans et que j'ai commencé à être complètement dingue de guitare électrique, il m'avait offert pour mon anniversaire une compilation de Jimi Hendrix. Et donc je connaissais de nom Jimi Hendrix, mais je connaissais pas un peu l'œuvre du gars. Et Voodoo Child, la chanson Voodoo Child. La violence de cette chanson, ce côté très sombre et très rock, très envoyé, ça a été vraiment un truc pour moi où là, après, je venais d'avoir peut-être ma première pédale de disto et que j'en ai abusé en mettant tout à fond. Et que le côté un peu, ouais, voilà, l'énergie du rock en power trio, c'est cette chanson, Voodoo Child. Après, j'ai regardé les vidéos en concert, j'ai tout le truc Woodstock. Ça, je peux pas passer à côté de cette chanson, quoi. Mais forcément, il y a du Bob Marley, et forcément, il y a aussi, je dirais, Superstitious de Stevie Wonder, qui est pour moi la chanson ultime du groove black, envoyade cuivre, Superstitious, Stevie Wonder. Ouais, et Nirvana aussi, il y a eu une grosse période Nirvana un peu, mais c'était moi, j'aimais bien le côté unplugged. Et la chanson All Apologize, il y avait cette chanson All Apologize que j'ai repris sur scène quand je faisais dans les bars, j'adorais la reprendre. What I should have been. Et puis on va dire que Nirvana a quand même était assez influent, donc All Apologize. La dernière, je vais essayer de penser à une des chansons les plus belles, quoi, qui puisait sur le... j'ai pas cité une chanson des Beatles, c'est quand même, c'est pas possible. Je dirais I Am The Walrus, chanté par John Lennon. Et à l'époque, donc c'est sur Walrus, elle est sur Magical Mystery Tour. Et l'époque où les Beatles sont pleins dans les acides, les LSD, qui est un vrai tournant depuis Sgt. Pepper. Et Walrus, pour moi, c'est, je dirais pas que c'est la plus belle des chansons, mais je sais pas pourquoi. Celle-là, elle m'a marqué dans le côté où moi, finalement, dans ma musique, j'essaie de toujours avoir un petit peu un côté un peu déglingue. Et pour moi, cette chanson Walrus, elle aurait pu être très sérieuse, très carrée. Et puis en fait, il y a les premiers samples de voix, il y a des premiers trucs. Dans cette chanson, il y a eu un vrai tournant dans les années 70 qui a fait qu'on passait du rock, rockabilly, tout ce truc-là de yéyé. On est passé aux années 70 avec tout l'impact qu'a eu les drogues, quand même, qu'il ne faut pas négliger. Hein. Ça serait un peu hypocrite de dire le truc. Et I Am The Walrus, pour moi, c'est une chanson assez étrange. Et finalement, elle peut faire le lien après avec... je pense que dans cette chanson Walrus, des mecs comme Bowie, des mecs comme Cure, ça leur a amené après toute la vague des 70, un peu spé, un peu bizarre, un peu tout ça. J'avais vu dans des interviews qu'ils parlaient souvent de cette chanson. Voilà.
C'est vraiment fait.
Et de 10, bah cool.